Les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours. Mon frère, ouais, hein? Job disait, lui, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et je regarde mon titre, « Né pour servir ». Vous savez, c'est deux affaires dans la vie qu'on ne peut pas éviter. Hein? À quelque part, on est en action, on fait des choses dans toutes sortes de domaines. Et il arrive un événement de la vie où ça bouleverse tous nos agendas. Une grande réalité que je voudrais partager avec vous ce matin, justement, c'est... J'ai lutté beaucoup avec ce message parce que j'ai fait deux, trois fois les mêmes notes différemment. Et je me suis dit à moi-même, Michel, pose-toi la question. La première règle d'homilitique, c'est à qui tu parles. Bien, ce matin, je parle à l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine. Je parle à une Assemblée qui va délibérer. Une Assemblée qui prend ses responsabilités pour choisir parmi eux des hommes et des femmes de Dieu qui vont servir d'une manière tout à fait spéciale l'Assemblée en deux réunions d'affaires. Et ensemble, on va être dans la prière, on va être dans la réflexion. Il y a eu des nominations. Les tâches sont un peu différentes parce que ça fait des années qu'on fait ça d'une manière, là on tombe d'une autre manière. Puis moi, je ne vais pas embarquer dans toute cette gymnastique du CA. Le CA, c'est un comité qui gère des choses matérielles et légales d'assemblée, et c'est bien. On a les diacres, qui diaconesses, qui vont servir l'assemblée d'une manière tout à fait spéciale, un aide aux anciens pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée comme assemblée. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais apporter dans 35 minutes qui pourrait nous rallier ensemble, qui pourrait faire de nous un seul homme devant l'Éternel, avec un but spécifique, comme Église, pour 2017 qui s'en vient, beaucoup de choses à faire. Et dans ces années qui s'en viennent, en fin de compte, il va y avoir, oui, de la souffrance. Même d'ailleurs, le jour où vous cessez de souffrir, vous êtes mort. Je me cogne sur un côté de cet incite. Là, j'ouvre une petite parenthèse en disant, là, je comprends les gens qui parlent de leur bobo. Quand j'étais plus jeune, je disais à moi-même, « C'est-tu radoteux des personnes âgées? » À ce temps que je suis rendu une personne âgée de 68 ans, je me lève le matin et j'ai mal dans l'os site du coude parce que j'ai dormi le bras de même. J'ai mal aux genoux parce que je me suis penché de telle manière. C'est une des premières conversations qu'on a avec moi et Diane. Diane aussi, elle a mal dans le dos. Et au lieu de se dire « bon matin, on prend notre café pour on jase, on parle de nos bobos, on a du fun. » Et ça fait en fin de compte, tu sais, on est humain. Et écoutez, l'humain est tiraillé entre deux choses. Se faire servir... ou servir. Vous savez, Platon disait ceci, « Comment un homme serait-il heureux, demanda Platon, s'il devait servir quelqu'un? » Le concept de l'ancien monde, et même, je dirais d'aujourd'hui, d'un certain sens, servir, c'est pour l'esclave. Servir, c'est pour la race inférieure. Servir, tu ne peux pas être heureux pour servir quelqu'un. Tu vas être heureux si tu te fais servir. Puis, ça n'a pas du mauvais sens, d'un certain sens. Souvenez-vous, là, vous arrivez au restaurant, puis vous faites servir un repas. C'est beau, oui, mais vous allez être servi, hein? Pas de vaisselle à laver pour madame. Hein? C'est-tu le fun, ça? Une vraie vacance. Et c'est merveilleux, ça. Puis, on peut se poser la question dans l'Église. Il y a des statistiques, là. Je ne sais pas si je prononce le comme faux, Gilles. Pareto, comment il s'appelait, là, celui 80-20, là? Pareto. 80-20. Il disait, d'une foule, là, tu as 20% des gens qui font un job, puis tu en as 80 qui font rien. ou presque. C'est décourageant, ça. Est-ce que ça devrait être de même dans l'Église de Dieu? Non? Faites le calcul. À quelque part, Jésus arrive dans cet ancien monde avec un concept extraordinaire, révolutionnaire, quelque chose qui est difficile à comprendre, tellement difficile à comprendre que Jésus va passer son ministère à essayer d'expliquer aux douze ce principe de service, d'être serviteurs les uns les autres, de se considérer les uns les autres. On a la demande d'une maman dans Matthieu 20. Puis elle a encore le vieux concept de ceux qui dominent puis ceux qui sont les esclaves serviteurs. Et elle va demander à Jésus, « Jésus, lorsque tu vas venir dans ton règne, là, je veux que mes fils, un à gauche puis un à droite, puis le Seigneur va dire ceci. » Parce que les 10 autres, ils ont entendu, puis ils sont... Hey, ils se prennent pour qui ces deux-là là, qui veulent dominer sur nous autres? Et là, il y a une petite chicane qui commence à se passer. Et Jésus les appelle, il dit, « Vous savez que les chefs des nations, les tyrans, les tyrannisent, et que les grands, les asservis, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Quel concept! Complètement révolutionnaire. Un concept qui nous rappelle les priorités du Seigneur, c'est la personne, c'est l'âme, c'est non pas des systèmes tricotés par les hommes, des hiérarchies, etc., etc. Matthieu 13, juste pas longtemps avant la crucifixion, les disciples n'ont pas encore compris. Arrive, connaissez l'histoire, il se met une serviette en entour de lui, il lave les pieds de ses disciples, il arrive à Pierre, « Non, lave-moi pas les pieds! » Là, il dit, « Wow, un instant, c'est tellement important ce que je veux vous enseigner, là, parce que si je te lave pas les pieds, là, ça ne marchera pas. » Là, Pierre se résigne, il lave les pieds. « Sache réservé aux esclaves, le plus petit de la famille de cette époque, celui qui est le maître devient le serviteur. » Jésus lui-même. Là, on va lui poser la question. Qu'est-ce qu'il dit? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous l'exemple que je vous donne? Moi qui suis le maître, j'ai pris la position d'un serviteur, d'un esclave. Donc, je ne suis pas venu ici pour établir des rois et des reines, une monarchie. Je suis ici pour construire une église. Et vous devez avoir cette même attitude les uns envers les autres, d'humilité, de serviabilité, de bienveillance. J'ai 3 pages de notes techniques sur ce mot-là. Je ne prendrai pas le temps de tout le faire, le temps passe trop vite. Ceux qui sont intéressés, je vous passe ces feuilles. Le mot « clé » de l'Ancien Testament. C'est une famille de mots. Il y a des synonymes aussi, mais c'est omniprésent dans le Nouveau Testament. Ce verbe, ce nom, un serviteur, servante. Et les traducteurs l'ont traduit de différentes façons. Et j'aurais pu vous le montrer, je les ai même enlevés parce que c'est trop long. Le ministère, c'est le mot service. Serviteur, c'est le mot service. Servir. Et ces mots-là qui sont là, Jésus est appelé un diacre. Mais le mot diacre, fin de compte, vient du latin qui a été emprunté au 11e siècle. Pour décrire un système depuis Constantin 313 qui a été tricoté pour avoir un système hiérarchique. Paul est un diacre. Phobée est une diaconesse. Et c'est plein de serviteurs et de servantes dans le Nouveau Testament, parce que c'est le mot-clé du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel était supposé d'être le roi d'Israël. Ils l'ont rejeté, ils ont pris Saül à la place. La monarchie est arrivée dans Israël, les droits du roi, et ça a changé complètement le portrait de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur arrive, puis il va arriver avec quoi? Une nouvelle humanité, des hybrides, qui ont le Saint-Esprit en eux. Jamais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, chaque croyant est identifié par le sacerdoce. Vous êtes des prêtres et des prêtresses pour Dieu. Vous êtes de ceux qui proclament les vertus du Seigneur, qui annoncent le salut de Dieu. C'est un sacerdoce universel, un sacerdoce non transmissible. Et qu'est-ce qu'un sacerdoce? C'est le pouvoir de faire des prêtres et des prêtresses. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Cette nouvelle humanité qui est l'Église de Jésus-Christ. Jamais dans l'Ancienne Alliance, le croyant est habité par le Saint-Esprit en permanence. Et vous l'êtes. Vous êtes habité du Saint-Esprit en permanence. OK, vous dites, oui, oui, mais, oui, oui. Éphésiens 4, 30, 31, hein? Bon. Attristez pas le Saint-Esprit à lequel vous avez été habité, qui est en vous. Attristez-le pas. Mais il est là. Et ce Saint-Esprit-là, lorsqu'on est sensible et qu'on laisse le Seigneur régner dans nos vies, nous donne un discernement spirituel. Comparant à l'Ancien Testament, ce n'est pas comme ça que ça se passait. L'Esprit saisissait les prophètes, saisissait les hommes, les femmes. Il leur donnait un ministère, une chose à faire pour l'Éternel. Il accomplissait les choses. Une économie complètement différente. Troisième chose, jamais dans l'Ancienne Alliance, Dieu demande d'être serviteurs les uns les autres. C'est un concept complètement nouveau, d'être serviables les uns vers les autres, d'être serviteurs les uns des autres, d'être esclaves des uns. Quelle révolution! Même aujourd'hui, en 2016, on a de la misère à dire comment je mets ça en pratique lundi matin. Serviteurs les uns les autres, et pourtant la toile de fond de notre marche comme Église dans ce monde pervers et corrompu dans lequel on est. Pour que les gens nous regardent vivre ensemble, travailler ensemble, grandir ensemble, se supporter les uns les autres, porter les fardeaux des uns les autres, nous aimer les uns les autres, être patient avec les uns les autres, être remplis d'amour, et de compassion pour ceux du dehors qui ne connaissent pas Christ. Les gens regardent nos vies, pas rien que le bâtiment. Ils regardent le bâtiment, s'ils ne le regardent pas, ils vont rentrer dedans. Il faut le voir. Mais les gens regardent les vies, regardent l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Appelés à être serviteurs les uns des autres. Quelle économie complètement différente. C'est un nouveau royaume. Royaume d'Israël, les royaumes de Juda, royaumes, etc. Vous savez, Apocalypse 1:6 nous dit ceci. Seigneur Jésus est qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Wow! Vous êtes des prêtres et des prêtresses. Ne marquez pas ça sur votre rapport d'impôt, là. Parce que pour eux autres, tu n'auras pas ta déduction de clergé. Là. On ne parle pas de ça, là. OK? Bon. L'aspect spirituel de l'Église, l'Ecclésia, on parle de ça. On a de la misère à se faire comprendre. Ça prend du monde doué comme Gilles pour expliquer au gouvernement on a-tu le droit d'avoir une bâtisse? Pour ça, on a besoin de savoir ce que la loi nous permet d'avoir ou pas avoir. Et donc, ça nous prend un CA, selon la loi. Mais au-delà de tout ça, reculons un pas en arrière, pas trop loin, parce qu'il y a des instruments. Reculons un pas en arrière, mais c'est quoi le fond de toute notre vitalité, de notre zèle, de notre compassion, de notre passion? Ce n'est pas ces choses obligées par la loi pour fonctionner bien d'une manière en 2016. La toile de fond, c'est des servants et des serviteurs remplis du Saint-Esprit qui annoncent et proclament et vivent l'Évangile. Et ça, c'est tout un défi pour moi et vous. L'Église. Là, j'ai mis Ecclésia, là, c'est pas passé trop de temps là-dessus, mais Ec, or, Ecclésia, appelé. Quand vous lisez le mot Église, là, pensez à ça, c'est le fun. Avant, on était mort dans nos péchés, nos offenses, dans lesquelles on marchait autrefois, selon notre train de ce monde. On était des aveugles, spirituels. Et on a saisi qui était Christ. Et là, vous avez vécu, et j'ai vécu, et j'espère que vous allez vivre cet appel de Dieu dans votre cœur. Que vous saisissez qui est vraiment Jésus-Christ, puis vous l'acceptez par la foi seule, comme sauveur et maître de votre vie. Ça s'appelle « Je bâtirai mon Église », les paroles du Seigneur. « Ec » appelé du dehors de l'Église. Il y a peut-être des gens ici qui croient qu'ils étaient assis à l'Église du Cap. Là. Vous n'êtes pas assis à l'Église du Cap. Vous êtes assis dans un bâtiment que Dieu nous a donné, un outil pour accomplir sa gloire. Les croyants remplis de l'Esprit, prêtres et prêtresses, c'est les hommes et les femmes qui ont été appelés hors du monde pour faire l'Ecclésia. Y a-t-il quelqu'un d'assis ici qui n'est pas dans l'Ecclésia? L'appel de Dieu dans votre cœur concernant Jésus-Christ. L'Église n'est pas un culte de personnalité non plus, où tout repose sur un homme. C'est l'assemblée d'un tel. Ah, ça, c'est l'assemblée d'un autre. Ça, c'est l'assemblée de si. Hey, comment qu'on entend ça? Non. C'est l'Église de Dieu. Une fois, il y avait un homme qui était interviewé, puis il arrivait d'une région, puis les journalistes lui posaient la question, mais on va vous dire qui, mais je finisse ma citation. Il dit, puis, êtes-vous venu ici pour fonder une nouvelle Église? Il dit, non, non, il dit, il y en a un qui a commencé, c'est Jésus-Christ, puis il dit, je ne veux pas compétitionner avec lui. MacArthur, il répond, ça, il trouve ça bon. Ce n'est pas non plus un clergé, où tu as le laïc en bas, les laïcs en bas, puis tu as le clergé en haut qui décide tout. Et puis, on a un spécial, le papousse. Hein, le papa. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans les cieux. N'appelez personne sur la terre votre directeur de conscience, car un seul est votre directeur, c'est Christ. Ouf! C'est pas ça. La cité du Cap de la Madeleine n'est pas sur la tête de Michel Penneau, de Stéphane, de Denis, de Guy Dupont, je vais tout vous nommer, m'arrêter là. Mais vous comprenez tout cela? À quelque part, Dieu arrive avec une idée extraordinaire, mais pourtant on est tellement influencé par le monde, par les systèmes, qu'à partir du 11e siècle, c'était établi la hiérarchie et tout le monde, sur le côté protestantiste, c'était la même chose. Il y avait monsieur le pasteur qui décide tout, une équipe d'anciens, puis une équipe de diaconat qui fait donne la nourriture aux pauvres. Puis on a tout structuré l'idée de cette manière. Mais l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est pas ça. C'est qu'on est des hommes et des femmes remplis de l'Esprit en train de vivre l'Évangile devant ceux qui nous entourent. C'est pas non plus un groupe de personnes qui ont la même passe-temps et qui ont son des photocopies de l'un de l'autre, les uns des autres. S'il y a quelqu'un ici là, qui veut faire une photocopie de lui-même, là, tu vas penser comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. S'il vous plaît, là, changez de place. On n'est pas ici pour faire des photocopies de vous. On est ici, qui a été mentionné ce matin par notre frère Carl, on est ici pour être transformé à l'image de qui? Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça qu'on doit ressembler. Mais nous, comme individus, là, on est tous différents. On est tous différents. L'Église locale est une structure spirituelle, organisme vivant. On est tous différents. À l'école du dimanche, on chantait le cantique. Jésus aime tous les enfants du monde, rouge, jaune, noir et blanc, il les aime constamment. Ah non. On peut-tu s'enrichir des différences de tout le monde? Tu sais, à quelque part, là, t'en as qui se peignent du côté gauche, d'autres qui se peignent dans les airs, d'autres se peignent à gauche, d'autres qui ont de la barbe. Il y en a qui ont des nids de clown. Écoute, on peut-tu s'enrichir puis voir la diversité de Dieu? Puis là, c'est donc merveilleux d'être pas des photocopies de Michel Penneau. Ça ferait dur ici. Diane a dit, une chance, tout le monde n'est pas comme toi, Michel. Je suis donc content que Adama soit là pour faire un gros contraste. Un seul corps, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça peut-tu être? Là, je me disais, qu'est-ce que tu m'as à dire avec ça? Là, j'ai souligné les plusieurs, j'ai souligné seuls, tous, plusieurs. Dans le fond, c'est que ça que je veux dire. Mais, c'est ça. C'est ça. Regardez, ça va encore plus loin. L'harmonie du corps. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de diakonéas, qui veut dire serviteur, service. Voyez-vous, là, c'est ça, là, quand on lit nos Bibles françaises, on pense ministère. Là, on pense à le gars qui est en Chine en train de traduire la Bible en chinois, celui qui a un ministère de pasteur, celui qui a un ministère de ci, puis un ministère de ça. Mais ça dit tout simplement diversité de service. Et y en a-tu des choses différentes à faire dans l'Assemblée? Moi, là, je ne veux pas être dans le CA, mais je vais vous le dire tout de suite, nommez-moi pas, parce que on va me demander de compter et faire des budgets. Je suis un gros zéro dans ça. C'est ma femme la spécialiste là-dedans, pas moi. Diversité, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, d'énergie, de force, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Le « pour » aurait dû le mettre en rouge, mais c'est parce que le rouge ne paraît pas dans le tableau. Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans son idée d'avoir une toile de fond de serviabilité, de service, d'entraide les uns avec les autres, il a donné des capacités? Capacités. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Dieu ne donne pas un don pour aller le pratiquer en dessous du lit chez vous dans votre chambre. Jamais. Un don est toujours donné pour l'autre. Et c'est pour ça que la responsabilité des anciens, c'est de discerner les dons dans l'Assemblée, encourager les gens à mettre en pratique leurs dons, encourager les gens à trouver un plateau de service pour leurs dons. Et c'est cela qui est la responsabilité de ceux qui servent le Seigneur. « Hey, toi, mon frère, là, t'es doué dans ça. Là, tu peux t'utiliser grandement. » La souveraineté de Dieu à cette heure. L'un va dire, « Ouais, mais moi, là, j'aimerais ça prendre ta place. J'aimerais ça être comme telle personne à l'accueil. » Ah. Elle a l'affaire. Elle dit bonjour aux gens, elle a de l'entre-gens, elle a un sourire. Moi, le matin, j'arrive ici, j'ai une face basse. Je vais aller tout de suite au café, pour essayer de me réveiller un peu plus. Mais Dieu, là, dans sa sagesse, il dit d'aller vers lui dans la prière. puis de mettre Dieu. Dieu met à la place chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le bas de la ligne, hein, c'est Dieu qui a décidé telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Pensez-vous que Dieu est dépassé par les situations qu'on vit, nous autres, là? Pensez-vous que Dieu, là, il est désemparé parce que le feu est pris dans la bâtisse? Que Dieu, il est limité parce que, on va le dire, hein? Parce que l'équipe d'anciens a été détruite? Parce que Dieu est limité par ça? Ben non. Dieu, il a toujours quelque chose à nous enseigner. Et malheureusement, on apprend les plus grandes leçons de la vie par la souffrance. La souffrance change les gens. Malheureusement. Ça fait ça penser à moi-même. Si on serait dirigé par des pieds, ça irait pas bien. Puis à quelque part, Paul il fait l'analogie à fin de compte, puis il dit, hein, OK, moi je suis là, moi je vais être la tête. Mais t'as une paire de pieds, toi. Tu ne peux pas être la tête, être des pieds. Si tu penses comme un pied, tu n'as pas de bon sens spirituel, tu n'es pas nuancé, tu es plié direct avec Dieu. Comment est-ce que tu veux diriger le peuple de Dieu et enseigner adéquatement la parole de Dieu? Pense-y deux minutes. Jacques 3:1 dit quoi? Il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui se mettent à enseigner qu'elles sont jugées plus sévèrement que les autres. Vous jugez moi. Je suis jugé ce matin par vous tous. Hein? Et je suis jugé par Dieu aussi. Qu'un pied qui dirige fait en sorte que ça avance pas vite parce qu'il marche ses mains. Moi, ses mains, je suis pas bon. Mais je peux écouter, par exemple. Puis, en tout cas, on va arrêter ça là. Ça, c'est une petite farce en passant. Mais vous comprenez la bouche, où ce qu'elle va? Je voulais mettre la bouche ailleurs, mais elle n'est pas osée. On parle-tu, hein? Vous savez, un des péchés, le premier péché de l'Église, savez-vous lequel que c'est? C'est le même péché qu'Israël. Ouais. Le murmure. Le murmure. Axis, c'est le murmure. Le peuple de Dieu murmure contre Moïse. Le murmure. La calomnie, la médisance. Le mensonge. Ça détruit l'essence même du service. Faisons confiance au Seigneur, puis ayons du discernement spirituel, parce que c'est Dieu qui dirige. Ce qu'on sème, c'est une grande loi, Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme va semer, il va aussi le récolter. Alors, voilà notre responsabilité. On est tous différents, mais on a quelque chose en commun. Êtes-vous d'accord? On a le même Esprit Saint, on est connectés. Ceux qui ont tout compris ce que j'ai dit un matin, là, d'un sens, là, ils sont connectés. Okay? Si vous ne savez pas de quoi je parle, puis je suis d'un patate, il y a de quoi qui déconnecter quelque part. Parce que c'est sa parole qui enseigne ça. La parole nous enseigne ceci. C'est que le corps est organisé. Le nez est à bonne place, les yeux sont en bonne place, les mains sont en bonne place, les pieds sont en bonne place. Dieu a créé un corps. Et Paul, lorsqu'il va passer 6 ans à enseigner cette image du corps, il y a un monsieur qui a sorti un livre il y a bien longtemps, il y avait 86 images de l'Église dans la Bible. C'est tiré par les cheveux un peu, mais on ne se trompe pas en disant, Paul, il parle-tu du corps, oui ou non? Le corps, es-tu bien organisé? Je suis content, moi, que les organes sont en bonne place. Puis ils font le job. Puis le membre le plus indigne, impur, si on ne l'aurait pas, là, mais ça sortirait par la bouche. C'est le job. C'est organiser l'Église. Et voilà le défi que nous avons tous ensemble. Parce qu'on est un organisme, vivant, réel, orchestré par le grand chef d'orchestre qui est le Seigneur. Toi, du piccolo. Hein? Il était écœuré d'être dans l'orchestre parce qu'il était tellement pas utile. Je fais rien, moi, je fais rien. À un moment donné, il arrive un chef d'orchestre. J'avais besoin du piccolo, puis le piccolo t'a endormi sa job. Fait que là, le chef d'orchestre, il dit au piccolo, il dit, t'as pas joué? Moi, je suis rien qu'un piccolo. Je ne sais pas grand-chose. Personne ne me demande rien. Mais il dit, quand on te demande de quoi, tu ne réagis pas. Commence par réagir quand on te demande de quoi, puis peut-être piccolo, on va l'entendre plus souvent. Voyez-vous, à quelque part, c'est une complicité entre Dieu, nous, les uns avec les autres, pour faire un corps qui est orchestré par le Seigneur. Ou ce qui, dans le fond, c'est pas un homme qui est pape. Les protestants avaient été accusés, dans l'histoire de l'Église, d'avoir un pape de papier. C'était la Bible. Il dit, vous autres, les protestants, vous avez un pape de papier, nous autres, on a le magistère, tradition orale, bien orchestré, harmonisé. C'est quoi la définition de la musique, Adam? Je ne me rappelle plus, tu m'avais dit ça l'autre jour. Harmoniser les bruits, là. C'est beau, hein? L'art, hey, harmoniser les sons pour le rendre agréable à l'oreille. On aime la musique? Moi, j'aime ça. Le gars qui a écrit le psaume 150, il aimait ça aussi. Mais c'est ça le défi qu'on a. Ajuster nos cordes ensemble. Que vous ayez 6 cordes, 12 cordes, 20 000 cordes, peu importe, mais il faut les ajuster ensemble. Puis le hic dans ça, dans l'orchestre, harmonisation, il faut se pratiquer ensemble. Il faut être visible. Il faut être à proximité des uns avec les autres. Proximité les uns avec les autres. Donc, la mise en œuvre au service de Dieu et des autres. J'ai mis ça pour parler de la spécialisation des services suivant les dons reçus et leurs capacités. Wow! Spécialisation. Où sont les spécialistes? Tout le monde, et savez-vous que les spécialistes commencent à perdre toute crédibilité dans cet incident? Il faut faire attention. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi dans quelque chose. Je loue le Seigneur pour mon épouse qui était une bonne administratrice des choses d'argent. Moi, j'étais un dépensier, mais ma femme, elle, a ses comptes. Fait qu'à quelque part, dans ma décision intelligente, façon de parler, j'ai confié tout le budget à ma femme. J'étais sûr de mon coup, parce que moi, je ne vais pas me faire confiance. Donc, le spécialiste dans mon couple, c'est ma femme, en ce qui concerne l'argent. On n'aurait jamais rien eu, ça aurait été moi. Capacité. Où est-ce qu'ils deviennent, ces capacités spirituelles-là? Ça, il y a un cours EBE qui parle rien de ça. Là. C'est pour ça que j'ai simplement partagé avec vous que, dans le fond, là, chose qu'on peut faire pour Dieu avec vos capacités que Dieu vous a données comme humain, comme être humain. Vous avez des prédispositions plus fortes d'une chose plutôt que d'une autre. Et le Seigneur a besoin de vous pour le servir. Les serviteurs et servantes dans la Nouvelle Alliance mettent à la disposition de Dieu leurs dons pour l'utilité commune. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On fait ça pour l'utilité commune. On met ça au service des autres. Si je peux aider dans ça, je suis disponible. Vous savez, la chose la plus difficile d'une assemblée, c'est d'aller chercher les gens disponibles. Tout le monde est tellement occupé, là, que si on ne s'arrête pas pour dire, moi, je vais mettre tant d'heures pour le Seigneur, on ne le fera pas. Comme la lecture de la Bible. Comment il y en a parmi nous? On a dit, je vais lire ma Bible à tous les jours. Je vais lire 3 chapitres, 2 chapitres, 1 chapitre. Il y a des plans de livres. On s'amasse après 2-3 mois, puis rares ceux qui passent au travers. Et il y en a qui passent au travers. Alors, il faut mettre ça pour l'utilité commune. Sagesse de Dieu dans la vie d'Église, c'est pas ça qu'on veut. On aimerait que les gens du dehors nous regardent et disent, « Hey, il y a une sagesse là. » En plus de la sagesse de Dieu dans la sanctification, être sage en luttant contre le péché qui si facilement nous enveloppe, on a des buts communs ensemble. Les qualités des serviteurs et servantes de la parole. Là, je me suis dit, on va avoir des diacres, des CA, on va se prononcer là-dessus, nous les membres. Ici, j'aurais pu vous lire, là, j'ai 5 pages de qualité humaine et spirituelle dans ça, avec des versets bibliques. 5 pages. J'aurais pu vous donner ça un matin, puis d'aller lire ça chez vous, vous allez voir. Vous pouvez discerner. Mais je ne le ferai pas. À la place, je vais vous parler de la sagesse d'en haut, rapidement, dans 4 minutes. Le principe de base, or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Ça, c'est le principe. On veut des fruits justes, on veut des choses qui glorifient Dieu. Ça ne sème pas dans chicane, c'est pas là qu'on a les meilleurs fruits, c'est pas dans les batailles, c'est pas dans les controverses, c'est pas de couper le champ en quatre avec tout, c'est pas là que le fruit vient. Regardez bien, parce que le fruit de l'esprit, la sagesse d'en haut, à quoi qu'elle ressemble? Premièrement, elle est pure. Pure. Exempt de toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. Elle est authentique. Elle est pure. Ensuite, voilà la liste. Pacifique, modéré, conciliant, miséricorde, bon fruit, sans parti pris, sans hypocrisie. Soit qu'on monte, soit qu'on descend, on est à quelque part. À quelque part. On monte cet escalier puis on la descend. Je ne sais pas ce que vous êtes. Mais laissez-moi dire quelque chose. Si vous n'êtes pas un pacificateur ou une pacificatrice, vous avez votre vie en chicane. Si vous n'êtes pas modéré, vous allez être débalancé. Vous allez vivre dans les extrêmes. Pas d'équilibre. Dr. Lindstein, quand je suivais mes cours, il dit le secret, il y a 3 secrets à la vie chrétienne. L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Il disait ça. On s'attendait à avoir 3 bons points de sermon, nous autres. On écrivait tout ça dans nos notes. Mais ça m'a surpris de sa part. Mais quand tu y penses, là, on a-tu peur des extrémistes? On a-tu peur, même chrétiens, là. Tu sais, quand tu dis qu'il y a des chrétiens qui ont une Bible dans les mains et un fusil, puis ils tuent des médecins qui font des avortements, il n'y a pas une contradiction dans ça, à quelque part? Oui, voyez-vous, à quelque part, l'extrême nous guette, chacun de nous, et notre équilibre dépend toujours de nos 2 extrêmes. Hein? S'il y a une ligne droite, vous avez 2 extrêmes, où est l'équilibre? En plein milieu. Alors, dépendant des 2 extrêmes, vous êtes soit ce côté-là, soit ce côté-là. Essayons ensemble d'être équilibrés. Conciliants. On nourrit pas la calomnie, la médisance, la chicane, les rivalités, les divisions. On ne nourrit pas cela. Un ivrogne a besoin d'alcool, et médiateur, puis ceux qui font de la médisance ont besoin d'une oreille. Miséricorde, hey! Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, hein? Miséricorde. Mais savez-vous, je suis tellement content qu'on parle de miséricorde, là. Parce que moi, ce que j'ai découvert en m'en allant, là, c'est qu'on est très intransigeants les uns envers les autres. On est très intransigeants. On est exigeants. La compassion. De celles qui souffrent. De ceux et celles qui vivent des temps difficiles présentement. Même je pensais à ça cette semaine, puis je disais, ah, pourquoi je prêche là-dessus? Je pourrais prêcher sa miséricorde à la place. Voyez-vous, à quelque part, la serviabilité, la bienveillance, l'amour les uns pour les autres, véhiculé et vécu parmi nous, c'est une lumière qui luit pour le Seigneur. Bon fruit. Et là, on tombe dans quoi? Le fruit de l'Esprit. Il y a 9 résultats de marcher selon le Saint-Esprit, hein, dans Galates 5, 22. On arrête tout à regarder ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'on veut des hommes et des femmes de Dieu dans des positions de décision. parti pris, pas de favoritisme. Ah, mais lui, c'est un tel, il ne faut pas toucher à celle-là. Là. Ah, lui, c'est le favoritisme, là, c'est... Ah, lui, c'est une exception, puis il peut faire... Vous savez où est-ce que le favoritisme est le plus néfaste? C'est parmi les systèmes de gourous. Est-ce que vous connaissez les systèmes de gourous? C'est un gourou qui va être... Il va y avoir un film qui s'en vient, là, dans la lumière, là. C'est un gourou, là, puis il y a des adeptes, là. Et puis, lui, il est tellement spirituel là, qu'il peut coucher avec les femmes de tous les autres gars, c'est correct. Il est tellement spirituel là, que lui va battre les enfants au lieu des parents. Il est tellement spirituel là, que lui, il n'en fait plus de péché. C'est ça le système de gourou. Et c'est ça le favoritisme. Le gars, il enseigne, voici comment vous devez vous comporter, à part de moi, parce que moi, je suis trop haut pour vous autres. Et ça, c'est des réalités. Des gourous qui ont des gars avec des mitraillettes pour les protéger quand ils vont en ville. Pourquoi? Parce que les autres sont spéciales. Sans favoritisme. On a tout, excusez l'expression, le coup, ça bûche. On a tous à rendre compte à Dieu et rendre compte à nos frères et nos sœurs, à confesser les péchés les uns aux autres, prier pour les uns les autres, se supporter les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, intercéder. Hypocrisie. Vous savez, le mot hypocrite vient du mot acteur. Quand je vois des gens qui reçoivent des trophées en or, parce que c'est des bons acteurs, je me dis, c'est un bon hypocrite. Il nous a fait à croire qu'il était Superman. Dans cet escalier, on la monte, on la descend, dépendant de nos humeurs. Mais on a une mission, nous autres. On a une étoile du Nord, puis j'arrête là. À la grâce dont Dieu a fait preuve à leur égard, les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine croient qu'il leur confie la mission de. Une mission nous est confiée. Ce n'est pas une mission qui est confiée à un certain groupe, à toute l'Église de l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine. C'est notre mission à nous et nous sommes tous invités a fait partie de cette mission, d'être actif dans cette mission. On n'est pas ici pour consommer une sorte de religion. On est ici pour faire partie de la mission. Glorifier la personne de Dieu. Glorifie Dieu en toutes choses. Réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ et faire de chaque disciple un adulte dans la foi. Dans la foi. Et dans sa conduite, qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres croyants et qui s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. On ne fait plus des murs de protection alentour. Si tu n'es pas de ma gang, tu n'as pas d'affaires ici. Et nous autres, on est une gang qui vous invite à venir nous voir, même si tu ne fais pas partie de ma gang. Puis savez-vous ça, samedi, il y a un paquet de monde qui fait partie de notre gang. Justifier l'Évangile par nos vies. On va prier. Seigneur Dieu, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais on a compris quelque chose ce matin, c'est qu'on est tous des prêtres et des prêtresses, on est tous des servantes et des serviteurs. Nous avons tous la même mission, on a tous le même esprit. Et Seigneur Dieu, on veut te louer et t'adorer de ta sagesse qui va à l'encontre de la philosophie du monde, de faire un peuple qui t'appartient, un ecclésia, une église, qui est une lumière pour toi, Seigneur Dieu, que toi tu construis et te fais de nous des pierres vivantes, Seigneur Dieu. Seigneur, assiste-nous. Comme Église, comme Assemblée. Dans ces réunions où nous allons décider des choses ensemble, sois avec nous, Seigneur. Donne-nous un discernement spirituel afin d'avoir les femmes et les hommes là où ce que tu les veux, Seigneur Dieu. Car on est complice avec toi, Seigneur, dans cette démarche. Seigneur Dieu, merci pour notre temps ensemble ce matin. Et sépare-nous avec ta bénédiction. Amen. Amen. Amen.